Honoré de Balzac, Illusions perdues, 9. Il ne fut question, dans tout Angoulême, que du mot de l'évêque et de la réponse de Madame de Bargeton. Les moindres événements furent si bien dénaturés, augmentés, embellis, que le poète devint le héros du moment. De la sphère supérieure, où gronda cet orage de cancan, il en tomba quelques gouttes dans la bourgeoisie. Quand Lucien passa par Beaulieu pour aller chez Madame de Bargeton, il s'aperçut de l'attention envieuse avec laquelle plusieurs jeunes gens le regardèrent et saisit quelques phrases qui l'enorgueillirent. « Voilà un jeune homme heureux, » disait un fils de famille qui avait assisté à la lecture. « Il est joli garçon, il a du talent, et Madame de Bargeton en est folle. La plus belle femme d'Angoulême est à lui. » fut une autre phrase qui remua toutes les vanités de son cœur. Il avait impatiemment attendu l'heure où il savait trouver Louise seule. Il avait besoin de faire accepter le mariage de sa sœur à cette femme, devenue l'arbitre de ses destinées. Après la soirée de la veille, Louise serait peut-être plus tendre, et cette tendresse pouvait amener un moment de bonheur. Il ne s'était pas trompé. Madame de Bargeton le reçut avec une emphase de sentiment qui parut à ce novice en amour un touchant progrès de passion. Elle abandonna ses beaux cheveux d'or, ses mains, sa tête, aux baisers enflammés du poète qui, la veille, avait tant souffert. « Si tu avais vu ton visage pendant que tu lisais, » dit-elle, car ils étaient arrivés la veille au tutoiement, à cette caresse du langage, alors que sur le canapé, Louise avait de sa blanche main essuyé les gouttes de sueur qui, par avance, mettaient des perles sur le front où elle posait une couronne. Il s'échappait des étincelles de tes beaux yeux. Je voyais sortir de tes lèvres les chaînes d'or qui suspendent les cœurs à la bouche des poètes. Tu me liras tout chénier, c'est le poète des amants. Tu ne souffriras plus, je ne le veux pas. Oh oui, cher ange, je te ferai une oasis où tu vivras toute ta vie de poète, active, molle, indolente, laborieuse, pensive, tour à tour. Mais n'oubliez jamais que vos lauriers me sont dus, que ce sera pour moi la noble indemnité des souffrances qui m'adviendront. Pauvre cher, ce monde ne m'épargnera pas plus qu'il ne t'épargne. Il se venge de tous les bonheurs qu'il ne partage pas. Oui, je serai toujours jalousée. Ne l'avez-vous pas vu hier? Ces mouches buveuses de sang sont-elles accourues assez vite pour s'abreuver dans les piqûres qu'elles ont faites? Mais j'étais heureuse, je vivais. Il y a si longtemps que toutes les cordes de mon cœur n'ont résonné. Des larmes coulèrent sur les joues de Louise. Lucien lui prit une main et pour toute réponse la baisa longtemps. Les vanités de ce poète furent donc caressées par cette femme comme elle l'avait été par sa mère, par sa sœur et par David. Chacun autour de lui continuait à exaucer le piédestal imaginaire sur lequel il se mettait. Entretenu par tout le monde, par ses amis comme par la rage de ses ennemis, dans ses croyances ambitieuses, il marchait dans une atmosphère pleine de mirages. Les jeunes imaginations sont si naturellement complices de ses louanges et de ses idées. Tout s'empresse tant à servir un jeune homme beau, plein d'avenir, qu'il faut plus d'une leçon amère et froide pour dissiper de tels prestiges. Tu veux donc bien, ma belle Louise, être ma Béatrix, mais une Béatrix qui se laisse aimer. » Elle releva ses beaux yeux qu'elle avait tenus baissés et dit en démentant sa parole par un angélique sourire, « Si vous le méritez, plus tard, n'êtes-vous pas heureux? Avoir un cœur à soi, pouvoir tout dire, avec la certitude d'être compris, n'est-ce pas le bonheur ?»« Oui, » répondit-il, en faisant une moue d'amoureux contrarié. « Enfant, » dit-elle en se moquant, « allons, n'avez-vous pas quelque chose à me dire ? Tu es entré tout préoccupé, mon Lucien. » Lucien confia timidement à sa bien-aimée l'amour de David pour sa sœur, celui de sa sœur pour David et le mariage projeté. « Pauvre Lucien, » dit-elle, « il a peur d'être battu, grondé, comme si c'était lui qui se maria. Mais où est le mal ? » reprit-elle en passant ses mains dans les cheveux de Lucien. « Que me fait ta famille, où tu es une exception ? Si mon père épousait sa servante, t'en inquiéterais-tu beaucoup ? Cher enfant, les amants sont à eux seuls, toute leur famille. Ai-je dans le monde un autre intérêt que mon Lucien ? Sois grand, sache conquérir de la gloire. Voilà nos affaires. » Lucien fut l'homme du monde le plus heureux de cette égoïste réponse. Au moment où il écoutait les folles raisons par lesquelles Louise lui prouva qu'ils étaient seuls dans le monde, M. de Bargeton entra. Lucien fronça le sourcil et parut interdit. Louise lui fit un signe et le pria de rester à dîner avec eux en lui demandant de lui lire André Chénier jusqu'à ce que les joueurs et les habitués vinssent. « Vous ne ferez pas seulement plaisir à elle, » dit M. de Bargeton, « mais à moi aussi. Rien ne m'arrange mieux que d'entendre lire après mon dîner. » Câliné par M. de Bargeton, câliné par Louise, servi par les domestiques avec le respect qu'ils ont pour les favoris de leur maître, Lucien resta dans l'hôtel de Bargeton en s'identifiant à toutes les jouissances d'une fortune dont l'usufruit lui était livré. Quand le salon fut plein de monde, il se sentit si fort de la bêtise de M. de Bargeton et de l'amour de Louise qu'il prit un air dominateur que sa belle maîtresse encouragea. Il savoura les plaisirs du despotisme conquis par Naïs et qu'elle aimait à lui faire partager. Enfin, il s'essaya pendant cette soirée à jouer le rôle d'un héros de petite ville. En voyant la nouvelle attitude de Lucien, quelques personnes pensèrent qu'il était, suivant une expression de l'ancien temps, du dernier bien avec Madame de Bargeton. Amélie, venue avec M. du Châtelet, affirmait ce grand malheur dans un coin du salon où s'étaient réunis les jaloux et les envieux. « Ne rendez pas Naïs comptable de la vanité d'un petit jeune homme, tout fier de se trouver dans un monde où il ne croyait jamais pouvoir aller, » dit Châtelet. « Ne voyez-vous pas que ce chardon prend les phrases gracieuses d'une femme du monde pour des avances ? Il ne sait pas encore distinguer le silence que garde la passion vraie du langage protecteur que lui mérite sa beauté, sa jeunesse et son talent. Les femmes seraient trop à plaindre si elles étaient coupables de tous les désirs qu'elles nous inspirent. Il est certainement amoureux. Mais quant à Naïs... « Oh, Naïs !» répéta la perfide Amélie. « Naïs est très heureuse de cette passion. À son âge, l'amour d'un jeune homme offre tant de séductions. On redevient jeune auprès de lui. L'on se fait jeune fille. On en prend les scrupules, les manières. Et l'on ne songe pas au ridicule. Voyez donc, le fils d'un pharmacien se donne des airs de maître chez madame de Bargeton. L'amour ne connaît pas ces distances-là, chanteronna Adrien. Le lendemain, il n'y eut pas une seule maison dans Angoulême où l'on ne discutât le degré d'intimité dans lequel se trouvaient M. Chardon, alias de Rubempré, et madame de Bargeton. À peine coupable de quelques baisers, le monde les accusait déjà du plus criminel bonheur. Madame de Bargeton portait la peine de sa royauté. Parmi les bizarreries de la société, n'avez-vous pas remarqué les caprices de ses jugements et la folie de ses exigences? Il est des personnes auxquelles tout est permis. Elles peuvent faire les choses les plus déraisonnables. D'elles, tout est bien séant. C'est à qui justifiera leurs actions. Mais il en est d'autres pour lesquelles le monde est d'une incroyable sévérité. Celles-là doivent faire tout bien, ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni même laisser échapper une sottise. Vous diriez des statues admirées que l'on ôte de leur piédestal dès que l'hiver leur a fait tomber un doigt ou casser le nez. On ne leur permet rien d'humain. Elles sont tenues d'être toujours divines et parfaites. Un seul regard de madame de Bargeton à Lucien équivalait aux 12 années de bonheur de Zizine et de Francis. Un serrement de main entre les deux amants allait attirer sur eux toutes les foudres de la Charente. David avait rapporté de Paris un pécule secret qu'il destinait aux frais nécessités par son mariage et par la construction du second étage de la maison paternelle. Agrandir cette maison, n'était-ce pas travailler pour lui? Tôt ou tard, elle lui reviendrait. Son père avait 78 ans. L'imprimeur fit donc construire en colombage l'appartement de Lucien, afin de ne pas surcharger les vieux murs de cette maison lézardée. Il se plut à décorer, à meubler galamment l'appartement du premier, où la belle Ève devait passer sa vie. Ce fut un temps d'allégresse et de bonheur sans mélange pour les deux amis. Quoique là, des chétives proportions de l'existence en province, et fatigué de cette sordide économie qui faisait d'une pièce de 100 sous une somme énorme, Lucien supporta sans se plaindre les calculs de la misère et ses privations. Sa sombre mélancolie avait fait place à la radieuse expression de l'espérance. Il voyait briller une étoile au-dessus de sa tête. Il rêvait une belle existence, en asseyant son bonheur sur la tombe de M. de Bargeton, lequel avait de temps en temps des digestions difficiles et l'heureuse manie de regarder l'indigestion de son dîner comme une maladie qui devait se guérir par celle du souper. Vers le commencement du mois de septembre, Lucien n'était plus prote. Il était M. de Rubempré. Logé magnifiquement en comparaison de la misérable mansarde à Lucarne où le petit Chardon demeurait à Loumeau. Il n'était plus un homme de Loumeau. Il habitait le Haut-Angoulême et dînait près de 4 fois par semaine chez madame de Bargeton. Pris en amitié par Monseigneur, il était admis à l'évêché. Ses occupations le classaient parmi les personnes les plus élevées. Enfin, il devait prendre place un jour parmi les illustrations de la France. Certes, en parcourant un joli salon, une charmante chambre à coucher et un cabinet plein de goût, il pouvait se consoler de prélever 30 francs par mois sur les salaires si péniblement gagnés par sa sœur et par sa mère, car il apercevait le jour où le roman historique auquel il travaillait depuis 2 ans, L'archer de Charles IX, et un volume de poésie intitulé « Les Marguerites » répandrait son nom dans le monde littéraire en lui donnant assez d'argent pour s'acquitter envers sa mère, sa sœur et David. aussi, se trouvant grandi, prêtant l'oreille au retentissement de son nom dans l'avenir, acceptait-il maintenant ses sacrifices avec une noble assurance? Il souriait de sa détresse, il jouissait de ses dernières misères. Ève et David avaient fait passer le bonheur de leur frère avant le leur. Le mariage était retardé par le temps que demandaient encore les ouvriers pour achever les meubles, les peintures, les papiers destinés au premier étage, car les affaires de Lucien avaient eu la primauté. Quiconque connaissait Lucien ne se serait pas étonné de ce dévouement. Il était si séduisant. Ses manières étaient si câlines. Son impatience et ses désirs, il les exprimait si gracieusement. Il avait toujours gagné sa cause avant d'avoir parlé. Ce fatal privilège perd plus de jeunes gens qu'il n'en sauve. Habitué aux prévenances qu'inspire une jolie jeunesse, heureux de cette égoïste protection que le monde accorde à un être qui lui plaît, comme il fait l'aumône au mendiant qui réveille un sentiment et lui donne une émotion, beaucoup de ces grands enfants jouissent de cette faveur au lieu de l'exploiter. Trompé sur le sens et le mobile des relations sociales, ils croient toujours rencontrer de décevants sourires. Mais ils arrivent nus, chauves, dépouillés, sans valeur ni fortune, au moment où, comme de vieilles coquettes et de vieux haillons, le monde les laisse à la porte d'un salon et au coin d'une borne. Ève avait d'ailleurs désiré ce retard. Elle voulait établir économiquement les choses nécessaires à un jeune ménage. Que pouvaient refuser deux amants à un frère qui, voyant travailler sa sœur, disait avec un accent parti du cœur « Je voudrais savoir coudre !» Puis, le grave et observateur David avait été complice de ce dévouement. Néanmoins, depuis le triomphe de Lucien chez Madame de Bargeton, il eut peur de la transformation qui s'opérait chez Lucien. Il craignit de lui voir mépriser les mœurs bourgeoises. Dans le désir d'éprouver son frère, David le mit quelquefois entre les joies patriarcales de la famille et les plaisirs du grand monde. Et, voyant Lucien leur sacrifier ses vaniteuses jouissances, il s'était écrié « On ne nous le corrompra point !» Plusieurs fois, les trois amis et Madame Chardon firent des parties de plaisir, comme elles se font en province. Ils allaient se promener dans les bois qui avoisinent Angoulême et longent la Charente. Ils dînaient sur l'herbe, avec des provisions que l'apprenti de David apportait à un certain endroit et à une heure convenue. Puis, il revenait le soir, un peu fatigué, n'ayant pas dépensé 3 francs. Dans les grandes circonstances, quand il dînait à ce qui se nomme un restaurat, espèce de restaurant champêtre qui tient le milieu entre le bouchon des provinces et la guinguette de Paris, ils allaient jusqu'à 100 sous, partagés entre David et les Chardons. David savait un gré infini à Lucien d'oublier, dans ses champêtres journées, les satisfactions qu'il trouvait chez Madame de Bargeton et les somptueux dîners du monde. Chacun voulait alors fêter le grand homme d'Angoulême. Dans ses conjectures, au moment où il ne manquait presque plus rien au futur ménage, pendant un voyage que David fit à Marsac pour obtenir de son père qu'il vint assister à son mariage, en espérant que le bonhomme, séduit par sa belle-fille, contribuerait aux énormes dépenses nécessitées par l'arrangement de la maison, il arriva l'un de ces événements qui, dans une petite ville, changent entièrement la face des choses.